Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. On continue sur l'insurrection du ghetto de Varsovie.
Oui, nous continuons donc sur effectivement l'histoire du ghetto de Varsovie.
Ces jours-ci, en avril.
Fin avril 43. Jusqu'au 16 mai. Donc en fait, l'insurrection a duré un mois, du 19 avril au 16 mai 1943. Donc nous sommes, si on peut dire, encore en plein, donc 80e anniversaire de cette révolte, qui a été précédée de toute une période d'enfermement, de déportation. La révolte du ghetto est vraiment la fin du ghetto. Donc, autour de ces archives du ghetto de Varsovie, les archives de Ringelblum, et le livre aussi de Samuel Kassov, qui écrira notre histoire aux éditions Grasset. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ces archives. D'abord, pendant longtemps, quand on a fait l'histoire de la Shoah, on s'est surtout concentré sur les chiffres, c'est-à-dire le nombre de morts, le nombre de juifs assassinés, où, comment. Pour vraiment donner la notion de cet immense massacre, de 6 millions de morts, dont 3 millions de juifs polonais. Et puis, on a absolument voulu documenter le nombre de gens, puisque ces personnes avaient disparu, en particulier dans les camps de concentration, comme vous le savez, on brûlait les cadavres. Donc, vraiment, c'était important de donner les chiffres. Et puis, maintenant, la recherche plus récente s'intéresse à la vie des gens avant leur mort, si on peut dire. Donc, la vie des ghettos en particulier. Et donc, cette vie de ghetto est documentée par les archives de Ringelblum, donc ce Oneg Shabbos, c'est-à-dire joie du Shabbat. Donc, les réunions avaient lieu le Shabbat, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc, c'est Ringelblum qui forme toute une équipe de personnes qui doivent recueillir toutes sortes de témoignages, de documents, de faire des enquêtes, tout ça de manière très très scientifique, puisque Ringelblum lui-même avait une formation scientifique, historique. Et bien sûr, sans savoir à quel point cela allait mal se terminer. C'est-à-dire que donc, les Juifs se retrouvent dans ce ghetto, des Juifs de Varsovie et d'autres qui arrivent de partout, en particulier d'ailleurs d'Allemagne. Et ça, vous le voyez sur les Stolperstein en Allemagne. Vous voyez envoyés au ghetto de Lodz ou de Varsovie avant d'être assassinés, le plus souvent évidemment à Treblinka. Et donc, plein de réfugiés arrivent, aussi d'autres villes de Pologne. Donc, ce ghetto va être vraiment un endroit extrêmement concentré.
Surpeuplé.
Surpeuplé, exactement. Surpeuplé, où peu à peu s'installe la faim, la misère. Mais avec quand même une résistance, en particulier au niveau de l'aide. Et donc... Moi, je pense que les Allemands trouvaient que ça n'allait pas assez vite. C'est pourquoi, à partir de juillet 42, il y a une grande vague de déportation et là d'assassinats à Treblinka. Et ensuite, dans les 60 000 à peu près juifs qui restent, il y a donc en avril 43 cette révolte. Alors, pourquoi ces archives? Aussi parce que ce sont des archives rédigées le plus souvent en yiddish, qui est quand même le centre de notre émission, et avec des gens qui étaient souvent des militants du yiddish, dont Emmanuel Ringelblum lui-même, qui ont participé au YIVO, le YIVO créé en 1925 à Vilna, et qui se voulait vraiment un organisme de défense du yiddish, à un moment où les élites parlaient souvent le polonais, ou le russe, et donc vraiment essayer de montrer que le yiddish était la langue des juifs, la langue des juifs de l'Europe de l'Est, et vraiment essayer de développer la littérature, la grammaire, la philologie, enfin vraiment faire une étude scientifique du yiddish. Voilà, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur une figure très très importante de cette époque. C'est Rachel Auerbach, ou Rachel Auerbach. Alors, en particulier, pourquoi ? Parce qu'elle est une des rares survivantes de cette époque. Donc, il faut savoir qu'après la destruction du ghetto, donc mai 1943, les juifs survivants étaient ceux qui avaient réussi à passer du côté arien, dont Emmanuel Ringelblum lui-même, mais les Allemands ont continué à les traquer. Et donc, Emmanuel Ringelblum, sa femme Yehudis et son fils Uri ont été arrêtés et assassinés en mars 1944. Voilà, donc on va peut-être écouter d'abord une musique, parce qu'en fait, Rachel Auerbach donc, a vécu un certain temps avec Itzik Manger. Donc ça, c'était à l'époque où elle était à Varsovie, elle est arrivée en 1933. Itzik Manger est arrivée en 1928 déjà. Et donc, ils ont eu une liaison. Et il faut savoir aussi que lorsque Itzik Manger quitte Varsovie donc en 1938, il y a déjà des rumeurs de guerre. Lui, il est roumain, donc il fait partie d'un groupe d'ennemis, hein, puisque la Roumanie est alliée à l'Allemagne. Donc, il doit partir. C'est là qu'il part d'abord à Paris, puis à Londres. Et donc, lui va échapper à la guerre. Et Rachel Auerbach va garder ses manuscrits et va les cacher dans les documents de Oneg Chabes, où je crois qu'on les a retrouvés. Voilà, donc on va écouter
Une chanson écrite donc par Itzik Manger. Ben, les deux qu'on va écouter aujourd'hui sont écrites par Itzik Manger. Et ça, c'est une chanson plutôt nostalgique, mais pas vraiment triste. Ça parle du soir, qui couleur foncée, couleur de nuit, qui nous emmène et qui il parle de d'un juif qui prie avec cette lumière et le vent qui nous remue dans les oreilles. Enfin, ce sont les images de Itzik Manger très courante, ou avec la personnification des éléments. Alors, j'ai choisi pour cette chanson, il y a deux mélodies pour ça, mais j'ai pris celle de Rava Halberstein. Dans ce fameux disque, il a été assez important pour le rapport entre les musiciens klezmer et la musique yiddish. Elle fait vraiment le lien entre les deux dans ce disque appelé The Well, le puits. Qui a eu beaucoup de retentissement à son quand il est sorti, ça fait déjà longtemps, 1998, où toutes les chansons sont très joliment interprétées et très joliment accompagnées par les klezmatiques. Donc voilà, Ovenlied, poème ou chanson de soirée.
Still a Oven, Dunkel Gold, ihr sitzt beim Gläselwein, was ist geworden von mein Tag, a Schatten ohne Schein. Soll heute a Regen dunkel gold in mein Liederein, soll heute a Regen dunkel gold in mein Liederein, soll heute a Regen dunkel gold in mein Liederein, in mein Liederein. Stille Roben, dunkel gold, an alter grauer Ried, da wind frum a weg dem Stoi von dem Jor, Jor, Ried. Soll chod ja murmel von dem Mida rein zu mir, soll chod ja murmel von dem Mida rein zu mir, soll chod ja murmel von dem Mida rein zu mir, rein zu mir. We'll be right back. stiller Ofen, dunkel Gold. Wind wählt euch, wählt ein, mein treuer, was gewesen wach, schlaft wie ein Hindel ein. Soll ich heute Noten von dem Schlafen Lied zu mir rein? Soll ich heute Noten von dem Schlafen Lied zu mir rein? Soll ich heute Noten von dem Schlafen Lied zu mir rein? In Lied zu mir rein. Stille Rohre, dunkel Gold, als Sommervögel flieht, die Fliegel seine grau und gold, erwecken Gott behielt. Soll ich heute Zitter von dein Flieger rein zu mir rein? Soll ich heute Zitter von dein Flieger rein zu mir rein? Soll ich heute Zitter von dein Flieger rein zu mir rein? Rein zu mir rein.
Voilà, donc la vie de Rachel Auerbach est très très intéressante. Donc elle est née en 1903 à Lanowitz, à l'époque la Podolie russe, aujourd'hui Lanitsky en Ukraine. Donc elle a fait des études de philosophie à Lvov, donc elle connaissait très très bien le yiddish qu'elle aimait beaucoup, elle s'intéressait beaucoup à recueillir par exemple des chansons, des histoires en yiddish. Elle connaissait aussi bien sûr très bien le polonais. Et lorsqu'elle est à Lvov, elle se lie d'amitié avec les poètes Dora Fogel et Bruno Schulz. Bruno Schulz est beaucoup plus connu, mais Dora Fogel est une poétesse importante. Et en 1933, elle s'installe à Varsovie. Elle est active dans les cercles yiddish et notamment le Yivo. Elle écrit des critiques littéraires, des articles sur la psychologie en yiddish et en polonais. Oui, elle a aussi visité des institutions. Elle s'intéresse à beaucoup de choses. Et donc, j'ai eu l'occasion de lire ses reportages grâce à Carolina Szymaniak. Carolina Szymaniak, qui est une enseignante et une chercheuse en yiddish et qui a sorti un livre sur Rachel Auerbach, malheureusement en polonais, et qui n'est pas traduit. C'est dommage parce qu'elle a vraiment fait des recherches et retrouvé quasiment tous les écrits de Rachel Auerbach. Donc, c'est là qu'elle devient la compagne du poète Itzik Manger. Donc, durant la Seconde Guerre, donc elle se retrouve dans le ghetto où elle tient une cantine, une soupe populaire dans un immeuble de l'Association des hommes d'affaires juifs. Donc, là aussi, elle va décrire comment les gens ont faim, comment on essaye à tout prix de leur trouver de la nourriture grâce à l'Allein Hilf, le groupe d'entraide juifs, qui a des contacts avec les paysans polonais à l'extérieur, qui livrent de la nourriture, ce qui fait que le ghetto arrive à survivre malgré les restrictions terribles imposées par les nazis. Et il y a quand même des gens qui meurent de faim, donc elle décrit cela aussi. Et donc, elle est contactée par Ringelblum, qu'elle ne connaissait pas très bien, qui lui demande d'écrire une chronique de la vie de Varsovie. Elle échappe à la grande déportation de l'été 1942, et là, elle écrit aussi des témoignages. Elle a écrit tout le temps, de même que Ringelblum, qui a écrit aussi tout le temps. Il y a énormément de documents qui viennent d'eux. À l'automne 1942, elle rédige les témoignages de rares détenus juifs qui ont pu s'échapper de Treblinka et sont retournés à Varsovie. En février 43, donc un peu avant l'insurrection, elle arrive à se cacher du côté arien de la ville chez des amis polonais. Et elle circule avec des faux papiers et elle devient un courrier pour les mouvements de résistance juive. Donc, elle fait, après l'écrasement de l'insurrection, Rachel Auerbach continue à rassembler des archives sur la vie des Juifs et leur anéantissement. Elle écrit un essai sur la grande déportation et l'assassinat des intellectuels juifs. Et là, elle écrit en polonais. Et elle essaie d'expliquer les différents facteurs sociaux, psychologiques, individuels et collectifs qui travaillent la communauté juive pendant les années de ghetto. Et elle montre la grande diversité des comportements, du sacrifice à la collaboration. Et elle montre aussi comment les Allemands exploitent sans vergogne la volonté de survivre des Juifs. En novembre 1943, elle écrit en yiddish Yizkor, un livre de souvenirs ou mémorial pour rendre hommage aux disparus du ghetto. Donc, elle a survécu et elle est une des trois survivantes de l'Onek Shabbos. L'Onek Shabbos rassemblait beaucoup, beaucoup de gens, sans doute une centaine. Et Ringelblum avait vraiment voulu des gens de tout genre, des intellectuels, des historiens, des écrivains, mais aussi des gens de la rue. Et ils écrivaient soit en yiddish, en polonais, en allemand, certains, parce qu'il y avait aussi des juifs allemands dans le ghetto de Varsovie. Donc, il avait une vision très, très large des témoignages et des archives. Hein. Et donc, ces archives ont été enterrées dans deux endroits différents et à deux périodes différentes. Alors, je ne sais pas exactement comment elle a survécu, donc en étant cachée, évidemment, du côté arien. En tout cas, dès que la guerre est finie, en 1946, elle prend la parole lors d'une commémoration de l'insurrection du ghetto et implore l'assistance de retrouver les archives Ringelblum enfouies dans les ruines du ghetto. Donc, et c'est avec Hersch Wasser. Donc, il y a trois survivants de l'Onek Shabbos, il faut donner leur nom. Il y a donc Rachel Auerbach, il y a Hersch Wasser et Bluma Wasser, sa femme, qui, eux, ont échappé de manière quasiment miraculeuse, puisqu'ils étaient cachés dans un bunker. Ils sont sortis et ils étaient avec trois autres personnes qui ont été tuées par les Allemands, mais eux ont réussi à s'échapper. Donc, et Hersch Wasser et Rachel Auerbach vont chercher dans les ruines du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire que toute cette région, et même d'ailleurs tout Varsovie, puisqu'entre-temps il y a eu l'insurrection de 1944, donc tout Varsovie est en ruine, et donc on ne reconnaît plus rien, mais ils arrivent quand même à retrouver, donc dans des boîtes en fer, la première partie des archives, qui sont abîmées parce que ces boîtes n'ont pas été scellées, donc il y a de l'eau qui s'est introduite, et donc il faudra vraiment faire un grand effort pour arriver à sécher ces documents et à les lire, et certains restent illisibles. La deuxième partie des archives a été cachée dans des bidons de lait, et elles sont plus lisibles. Elles ont été retrouvées en 1950. Et la troisième partie, qui parle en particulier de l'insurrection du ghetto, a été cachée, mais on les a jamais retrouvées. Donc, Rachel Auerbach va ensuite participer à un film très intéressant qui, je crois, s'appelle « Nos enfants ». Que j'avais vu à Bruxelles. C'est un film où jouent Jigan et Schumacher et qui parle des foyers qui accueillent les survivants après la guerre. Ensuite, elle va émigrer en Israël où elle va continuer à écrire et à témoigner sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Itzik Manger vient à Varsovie après la guerre. Mais sa rencontre avec Rachel Auerbach est, semble-t-il, très compliquée. Ils n'arrivent pas à se parler. Et il repart, mais il va composer une très très belle chanson sur, enfin un poème. Itzhak Mangar écrit toujours des poèmes qui sont mis ensuite en chanson, et donc il va écrire un poème sur les ruines, de la Pologne.
De la Pologne, c'est pas seulement sur celle de Varsovie, hein, c'est sur les ruines de la Pologne, qui s'appelle « Unter die Churve von Polen », sous les ruines de Pologne, une tête aux cheveux blonds. Cette tête et ce désastre, ils sont là, réels tous les deux. Et le refrain, ça dit « Dolje, meine Dolje », en français « Oh, ma destinée ». Sur les ruines de Pologne tombe et tombe la neige. La tête blonde de mon ami me fait tant souffrir. La douleur est assise à sa table. Elle écrit une longue lettre. Les larmes dans ses yeux sont profondes et vraies. Au-dessus des ruines de Pologne, vole un oiseau, un grand oiseau de deuil. Ses ailes frémissent en prière. Ce grand oiseau de deuil, mon cœur affligé, porte sur ses ailes ce chant de douleur. Unter die Churve von Polen, chanté ici par Talila et Benzimet ensemble. C'est très beau. Ils ont chacun une autre prononciation. Elle a fait de la prononciation lituanienne et lui, polish, polonaise, mais ils s'accordent très bien.
Unter die Churves von Polen, a Kopf mit blonde Haar, der Kopf ohne seiner Hum, beide seinen Wohl. Der Kopf ohne seiner Hum, beide seinen Wohl. Churves von Polen fällt und fällt a Schnee. Der blonde Kopf von mein Meidl tiet mir mesoten wei. Der blonde Kopf von mein Meidl tiet mir mesoten wei. Dole, meine Dole, Dole, meine Dole, Dole, meine Dole, Dole, meine Dole. Der Weitig sitzt beim Schreibtisch und schreibt einen langen Brief. Die Tränen seine Augen sämstig und tief. Die Tränen seine Augen sämstig und tief. Dolle, meine Dolle, Dolle, meine Dolle. Flattert der Vogel um, a größere schiefe Vogel, zittert mit die Fliege vom. A größere schiefe Vogel, zittert mit die Fliege vom. Dolle, meine
Bien, nous reprendrons alors l'histoire de Rachel Auerbach, donc tout ce qu'elle a fait en Israël, qui est aussi très important, la semaine prochaine. Et en attendant, on vous dit Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem et merci Thomas. Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.